Merci de nous avoir entraînés dans la louange, l'adoration, la réflexion également par ces chants. Est-ce qu'il reste des enfants? Non, hein? Enfin, il me semble entendre quelques petites voix. Ce sont donc des enfants qui resteront. Mon cher pasteur, tu n'as pas choisi la facilité. J'ai lu le chapitre 4 de Ruth hier après-midi et je n'y ai pas compris grand-chose. Alors bien sûr, je ne suis pas une référence. Si dans le texte en lui-même et l'aspect factuel, j'ai pu retrouver certains points d'accrochage au niveau du droit de rachat, un droit qui existe encore sous différentes formes maintenant, le droit de réméré, le droit d'option, le droit de préemption. Il est clair, mais quand on exerce ce droit sur un bien fonds, foncier ou immobilier, généralement on n'a pas la femme qui va avec, donc on sépare les choses. Alors merci de réussir cette gageure qui consiste à actualiser ou réactualiser un texte qui a 2500 ans, qui nous parle encore aujourd'hui, et je me réjouis de t'entendre pour nous donner les clés qui, pour moi, me manquent en tout cas totalement, me manquaient hier après-midi. Je t'invite donc à venir. C'est bon, les aspects techniques sont faits. Donc tu peux... Oui, il reste. Bien, alors...
Alors, bonjour à tous. La dernière fois, en fait, on avait entendu en fait la prédication de Ruth 3, et en fait, il y avait eu, on trouvait plus simple, en fait, si, enfin, pour comprendre le texte, ils disaient que c'était plus simple si plusieurs personnes le lisaient, et c'est pour ça qu'on les a motivés, en fait, et ils se sont entraînés, en fait, pour vous lire, en fait, ce chapitre Ruth 4. Donc voilà, Adrien, je te laisse.
Boaz se rendit à la porte de la localité et s'assit. Le plus proche parent d'Elimelech, celui dont Boaz avait parlé à Ruth, passa justement par là. Boaz l'appela.
« Viens t'asseoir ici, »
lui dit-il. C'est ce que fit l'homme. Boaz demanda alors à 10 des anciens de la localité de s'installer avec eux. Lorsqu'ils eurent pris place, il déclara aux parents d'Elimelech.
« Tu sais que Noémie est revenue du pays de Moab. Eh bien !» Elle met en vente des champs qui appartenaient à Elimelech, notre parent. J'ai décidé de t'en informer et de te proposer de l'acheter devant les anciens et les autres personnes ici présentes. Si tu veux exercer ton droit de rachat, fais-le. Sinon, préviens-moi, car c'est à moi que ce droit revient tout de suite après toi.
L'homme dit.
Je veux bien acheter le champ.
Boaz reprit.
Si tu achètes le champ à Noémie, tu devras en même temps prendre pour femme Ruth, la Moabite, pour que la propriété du champ reste dans la famille de son mari décédé.
L'homme répondit.
Dans ces conditions, j'y renonce, pour ne pas porter atteinte à mes propres biens. Reprends à ton compte mon droit de rachat, car je ne peux vraiment pas l'exercer moi-même.
Autrefois, en Israël, quand les gens achetaient des biens ou échangeaient un droit de propriété, l'une des personnes ôtait sa sandale et la donnait à l'autre pour conclure le marché. Ce geste prouvait que l'affaire était réglée. C'est pourquoi, au moment où l'homme disait à Boaz d'acheter le champ, il ôta sa sandale et la lui donna. Boaz déclara aux anciens et à tous ceux qui étaient là.
Vous êtes témoins aujourd'hui que j'achète à Noémie tout ce qui appartenait à Elimelech et à ses fils Kilion et Malon. En même temps, je prends pour femme Ruth la Moabite, la veuve de Malon. De cette façon, la propriété restera dans la famille du mort. Il y aura des descendants pour perpétuer son nom parmi ses concitoyens et dans les affaires de sa localité. Vous en êtes également témoins.
Les anciens et tous ceux qui étaient présents répondirent.
Oui, nous en sommes témoins. Que le Seigneur bénisse la femme qui entre dans ta maison, qu'elle soit semblable à Rachel et à Léa, qui ont donné naissance au peuple d'Israël. Que ta richesse soit grande dans le clan d'Éphrata et ton nom célèbre dans tout Bethléem. Que le Seigneur t'accorde de nombreux enfants par cette jeune femme et qu'ainsi ta famille soit semblable à celle de Pérès, le fils de Judas et de Tamar.
Alors Boaz prit Ruth pour femme, et elle fut à lui. Le Seigneur la bénit, et devint enceinte et donna naissance à un fils. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie.
Loué soit le Seigneur. Aujourd'hui, il fait naître celui qui prendra soin de toi, que ton petit-fils devienne célèbre en Israël. Il va transformer ta vie et te protéger dans la vie de ta vieillesse. Ta belle-fille vaut mieux pour toi que sept fils, car elle t'aime et t'a donné ce petit-fils.
Noémie prit l'enfant et le tint serré contre elle. Puis elle se chargea de l'élever. Les femmes du voisinage proclamèrent.
Noémie a un fils.
Elles l'appelèrent l'enfant Obed. Obed fut le père de Jessé, père de David. Voici la liste des ancêtres de David à partir de Pérès. Pérès fut le père d'Erson. Erson, celui de Ram. Ram, d'Aminadab. Aminadab de Nachon. Nachon de Salma. Salma de Boz. Boz d'Obed. Obed de Jessé et Jessé de David.
Alors voilà, on va juste encore vous les présenter. Vous pouvez vous dire votre prénom, je pense.
Adrien.
Margot.
Séverine.
Benjamin.
Nicolas.
Samuel.
Merci pour cette surprise. Une surprise, c'est quelque chose qui n'est pas prévu par le président de l'Assemblée, mais qui est quelque chose d'heureux. Et c'est heureux. Voilà, eh bien, nanti de toutes ces recommandations et de l'onction de l'Esprit, mon cher pasteur, nous invoquons l'Esprit précisément sur ta prédication et cette assemblée. Oui, Seigneur, ta parole est vivante, elle nous parle aujourd'hui encore, pour autant que nous puissions, avec l'aide de ton Esprit, la faire entrer dans notre cœur, mais qu'elle nous parle également à notre intelligence pour réussir à avoir ces clés qui nous permettent de la décoder. Veuille nous nourrir les uns et les autres et être également avec nos pasteurs, le couple Michel, afin que nous puissions être en interaction et en communion les uns avec les autres à ta seule gloire. Amen.
Est-ce qu'on arriverait à peut-être éteindre les projecteurs de la fresque pour qu'on voit mieux le PowerPoint? Ah. Voilà, merci. Alors Jean-Luc, comme tu l'as dit, ce texte est compliqué et j'ai un tout petit peu peur que mon prêche soit compliqué aussi. Alors je vous invite à vous accrocher et puis si tout d'un coup vous perdez le fil, ben, c'est pas grave, on peut reprendre le fil plus tard. C'est bien. Différents textes nous invitent à différentes sortes de prêches. Le texte que nous étudions aujourd'hui commence par terminer le récit de la manière dont Dieu rachète et restaure la vie de Naomi. Mais après ça, tout d'un coup, le narrateur élargit le panorama et au travers des anciens qui sont là, qui parlent à Boaz, ou au travers des femmes qui sont là et qui parlent à Naomi, il brosse tout d'un coup une image qui va de Judas jusqu'à David. Et ça forme 700 ans de l'histoire du peuple d'Israël. Alors, pour cette raison, ce texte m'invite à aussi élargir, en tout cas au départ du prêche, à élargir le panorama et à réfléchir un petit peu sur la nature du message biblique. Je crois qu'il est important à ce stade, alors qu'on a déjà eu trois prêches sur la vie de Naomi, de Ruth et de Boaz, qu'on se pose la question suivante. Oups. Pourquoi est-ce que la Bible nous raconte tant de récits? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'histoires dans la Bible? Si la Bible veut nous révéler qui est Dieu, si elle veut nous expliquer quel est le sens de la vie, pourquoi est-ce que ces auteurs passent tellement de temps à nous raconter les détails de la vie de gens finalement assez obscurs, tels que Naomi ou Ruth? Alors, la Bible consiste effectivement en majeure partie de récits. Si vous réfléchissez, même les textes de loi sont insérés au milieu de récits qui nous racontent l'histoire du peuple d'Israël. Et ils sont directement liés aux événements que ces récits racontent. Si vous pensez aux textes prophétiques de l'Ancien Testament, ils sont constamment en train de se référer à l'histoire, au passé, au présent, au futur. Même les épîtres du Nouveau Testament basent leur argument sur l'action de Dieu dans l'histoire. Alors bon, les histoires, c'est pratique parce que, par exemple, pour enseigner l'école du dimanche, c'est plus facile de raconter des histoires que d'expliquer la doctrine de l'union hypostatique ou de la péricorèse, si vous me permettez de frimer avec quelques termes savants. Mais nous qui sommes adultes, n'aurions-nous pas besoin de quelque chose d'un peu plus consistant que les détails de la vie d'une telle ou d'un tel? Pourquoi est-ce que les auteurs de la Bible ne nous servent pas plutôt de la théologie, un condensé de qui est Dieu, de comment on doit vivre? Puis bon, si on admet que l'histoire est tellement importante pour eux, pourraient-ils pas au moins se concentrer sur les lignes maîtresses? Je veux dire, la Bible parcourt des milliers d'années d'histoire. Et il nous parle de comment est-ce qu'on donnait sa sandale pour terminer une affaire. Les Israélites, une chose que j'aurais dû faire, c'est de noter quand on passait. Alors, voilà. J'apprends encore. Pourquoi est-ce que les Israélites nous donnent tellement de détails et se concentrent tellement sur l'histoire? Les Israélites le font parce qu'ils croient que Dieu est à l'œuvre dans l'histoire et qu'il se révèle dans l'histoire et au travers d'elle. Donc quand ils observent les événements, ils cherchent à voir l'action de Dieu souveraine sur l'histoire. C'est ce qu'on lit ici. Qu'est-ce que j'entends par l'action souveraine de Dieu dans l'histoire? C'est comment est-ce que Dieu, globalement, est en train de conduire la direction de l'histoire, même si dans les détails, plein de choses se passent contre la volonté de Dieu. Les Israélites cherchent à comprendre comment est-ce qu'il conduit l'histoire dans son ensemble. Par là, ils essayent de comprendre quelles sont les motivations de Dieu et ses objectifs. Et au travers de tout cela, qui il est lui-même. En effet, on pourrait dire, pour résumer, que la Bible est fondamentalement un récit qui nous donne une exégèse de l'histoire. Alors ça, c'est les Israélites. Maintenant, nous, on est souvent démunis face aux textes bibliques. Là, je pense plutôt à des Occidentaux du XXIe siècle. Si parmi nous, il y a des gens qui viennent d'Afrique ou d'Asie, c'est probablement différent pour vous. En effet, nous, Occidentaux, on est influencés par la culture grecque. Et il y a plein de bonnes choses dans la culture grecque. C'est un mathématicien qui vous parle. Hein. Sous l'influence de la culture grecque, on réfléchit pas tellement en termes de récits, mais plutôt en termes de catégories, en termes de concepts, de valeurs, de morale. Cependant, aussi rationnels que nous soyons, Nous vivons tous dans un récit. Pourquoi ? Une des contraintes fondamentales de notre existence, c'est que nous vivons dans le temps. Puis le temps, il a une chose d'intéressante. C'est que le temps, il est irréversible. Donc si j'avance dans l'espace, je peux faire 2 mètres dans cette direction et reculer, faire 2 mètres dans l'autre direction et je me retrouve au point de départ. Le temps, il avance toujours. On ne peut pas revenir en arrière. Donc comme on vit dans le temps, qui a une direction, l'être humain a une tendance naturelle à expliquer le monde, non pas seulement en termes de catégories, mais en termes de récits. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un récit ? Un récit ou le mot histoire. J'utilise pas tellement le mot histoire parce qu'en français, ça a une connotation de fictionnel. Un récit, ça peut raconter un événement tout à fait historique. Hein. Bon, un récit, ça a un départ et une arrivée. Comme il y a un départ et une arrivée, ça forme une direction. Et puis, qu'est-ce qui fait que les choses avancent dans cette direction ? Qu'est-ce qui fait que les choses vont de ce point de départ jusqu'à cette arrivée ? Il faut qu'il y ait une force motrice qui amène les événements historiques dans cette direction. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Un récit possible, c'est l'évolution. Donc là, si on prend comme point de départ la Terre dans son état un peu originel, on a simplement de la matière un peu inerte, sans vie. Et puis, bon, l'arrivée dans la théorie de l'évolution, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est, mais si on prend une arrivée intermédiaire qui est aujourd'hui, on a une Terre remplie de vie avec des êtres aussi évolués que les êtres humains. Qu'est-ce que c'est la force motrice qui fait arriver une Terre avec que de la matière inerte vers une Terre remplie de vie et de complexité ? La force motrice de la théorie de l'évolution, c'est les mutations génétiques et la sélection naturelle. Voilà, ça c'est un récit. Alors, comme récit, on peut avoir toutes sortes de récits. On peut avoir le récit du progrès. On imagine que l'humanité est toujours en train de progresser et devenir meilleure et meilleure jusqu'à ce que finalement il y aura la paix sur la Terre, parce que les êtres humains réfléchissent de mieux en mieux. On peut avoir le récit de la libération des carcans socio-religieux. Hein ? Aujourd'hui, on est dans une société laïque, on s'est enfin débarrassé des carcans du patriarcat et de la religion. Ça peut être un récit. Le récit de l'illumination intellectuelle, le récit de la dégénérescence morale, hein, ça c'est le contraire, ça devient de pire en pire. Un espèce de passé idéal. Ça dépend pour qui, peut-être pour certains c'est il y a 100 ans en arrière. Puis l'arrivée, c'est une société où il y a un chaos complet. Alors, juste une petite parenthèse, parce que peut-être que certains d'entre vous vous dites, mais Nicolas, tu nous parles de récit, tu dis que tous on a un récit. Hein. En fait, ce que j'affirme maintenant, c'est que nous en soyons conscients ou non, nous avons tous un récit qui informe notre vision du monde. Mais ceux qui sont en train d'étudier ou qui ont étudié un peu la sociologie savent peut-être que la postmodernité ou le postmodernisme, une de ses caractéristiques principales, c'est qu'il refuse ces grands récits. Donc peut-être vous pensez, mais Nicolas, t'es resté coincé dans la modernité du XXe siècle. Alors, premièrement, j'aimerais dire que les postmodernes qui refusent les grands récits, ils l'ont fait pour des bonnes raisons. Parce que il peut y avoir des récits qui expliquent le monde, qui sont oppressifs et extrêmement dangereux. Je vais vous donner un exemple. le récit du Übermensch de Nietzsche, qui a été repris par les nazis. Le point de départ, c'est une société chrétienne qui, parce que dans la foi chrétienne, on cherche à élever les faibles et à pardonner, a permis que la société se fasse pervertir par toutes sortes d'êtres humains faibles et pervertis. L'arrivée, c'est une société où il n'y a plus que des surhommes, parce qu'on a éliminé tous les faibles. Et c'est comme ça qu'on va résoudre les problèmes. Et les Allemands, les nazis, se sont emparés de la théorie de Nietzsche, et pour eux, le surhomme, c'est les hommes de la race aryenne. Il faut purifier le monde pour qu'il n'y ait plus que la race aryenne. Donc vous voyez qu'un récit peut être quelque chose d'extrêmement dangereux. Et les postmodernes ont refusé les récits pour ce genre de raisons. Un autre récit, c'est la lutte des classes qui a mené au stalinisme, des choses pareilles. Par contre, je pense que les postmodernes se trompent quand ils disent qu'on peut se passer de récits. Je pense que leur propre théorie est un récit. Et puis qu'ils ont échoué, parce que dans notre société actuellement, au fait, il y a toujours un récit dominant, simplement il a remplacé le récit du christianisme. Et puis, le postmoderne dit, oui, mais au fait, on a chacun notre propre récit. Ben, effectivement, c'est ce qu'on observe dans notre société, c'est pas qu'il n'y a plus de récit, c'est que ça a éclaté et que chacun a sa propre manière de comprendre le monde. Alors, maintenant, j'aimerais vous poser la question. Quel est votre récit? Quelle est l'histoire que vous vous racontez pour expliquer le monde depuis son origine jusqu'à maintenant? Tous, nous devons nous poser cette question parce que ça a une énorme influence sur nos actions et sur notre vision du monde. Je reviendrai sur cette question tout à la fin. Alors, j'ai dit que la Bible, c'est principalement un récit. Ensuite, j'ai expliqué que, au fait, nous avons tous un récit pour expliquer le monde. Donc, la Bible, lorsqu'elle choisit l'histoire comme le véhicule de son message, elle ne fait pas un choix primitif de communication. Souvent, on se dit « Ah, mais... la Bible, ça raconte des histoires parce que c'était des gens qui ont vécu des milliers d'années en arrière. Ils n'étaient pas encore très évolués intellectuellement parlant. » Au fait, la Bible, en choisissant de véhiculer son message par un récit, elle le fait parce que c'est la structure même de l'univers qui le veut. Hein, on a dit « le temps est directionnel ». Et la structure même de notre psychologie, hein, fondamentalement, même inconsciemment, on se raconte une histoire pour expliquer le monde. Alors, qu'est-ce que c'est que le récit de la Bible? Je vais évidemment devoir être très schématique et court, hein, autrement on y sera encore demain. Le point de départ, la création. Le point d'arrivée, la nouvelle création. La force motrice, c'est Dieu. Une petite remarque. Le point d'arrivée, vous voyez qu'il y a le mot création dedans. Il y a le mot nouveau, il y a le mot création. Le point d'arrivée pour la Bible, ce n'est pas une vie éthérée où on joue de la harpe dans le ciel. Ça, je dois le préciser. Si vous prenez votre Bible, vous verrez que le point d'arrivée, c'est un monde matériel transfiguré qui est devenu le temple du Dieu trinitaire. Il y a la présence de Dieu qui est absolument partout et qui peut être là sans aucun frein, parce qu'il n'y a plus de mal. Alors, maintenant, Vous voyez qu'il y a toujours une flèche, une direction hein, dans un récit. Alors qu'est-ce que c'est que cette dynamique ? Premièrement, il y a besoin d'une nouvelle création parce que la création a été endommagée par la chute. Autrement, on aurait pu rester là puis simplement vivre la création. Il y a besoin... Ici, c'est la fin de l'histoire. Hein. Il y a quelque chose de complètement nouveau qui apparaît. La création a été endommagée par la chute. Et ce que Dieu est en train de faire dans toute cette flèche, ce que Dieu est principalement en train de faire, hein, et ce que la Bible témoigne au travers des détails de la vie de tous ces gens, et parfois en prenant une distance puis en faisant un grand panorama, c'est que Dieu, à cause de son amour fidèle, à cause de son amour surabondant, à cause de son amour qu'on ne peut pas mériter, est en train de racheter et de restaurer le monde. Alors c'est là que j'en viens à Naomi, Ruth et Boaz. L'auteur de Ruth décide de nous expliquer une partie du grand récit de l'humanité, hein, donc de Juda jusqu'à David, au travers d'un zoom sur la vie d'une obscure Moabite qui s'appelle Ruth, dans un bled perdu qui s'appelle Bethléem. Donc, imaginez les milliards d'années qui traversent toute l'histoire dont parle la Bible. Ils commencent à la création, ils arrivent jusqu'à Jésus. Des milliards d'années. Vous passez ces milliards d'années en quelques secondes. Puis vous refaites la même chose, puis tout d'un coup vous arrivez au juge et vous arrêtez et vous commencez à zoomer. Et puis vous voyez tout d'un coup qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une personne qui s'appelle Naomi. Si l'auteur le fait, c'est qu'il est convaincu que les événements qu'on voit dans ce zoom nous parlent de l'action de Dieu dans l'histoire. C'est ce qu'il dit d'ailleurs à la fin. Hein, tout d'un coup, il nous a raconté l'histoire d'une famille, puis tout d'un coup il nous parle de Judas, de Tamar, de Pérez, puis il arrive jusqu'à David. Alors, qu'est-ce que l'auteur du livre de Ruth nous apprend sur l'action de Dieu dans l'histoire au travers de ce livre? Alors, la première chose qu'on apprend dans le livre de Ruth à propos de l'action de Dieu dans l'histoire, c'est que Dieu fait du travail multicouche. C'est un terme pour les ingénieurs. Il fait du travail multicouche. Qu'est-ce que j'entends par ça? Il travaille à plusieurs niveaux en parallèle. Il travaille au niveau individuel. Dans notre livre, c'est la vie de Naomi, principalement. Il travaille au niveau du peuple de Dieu, dans son ensemble. Et il travaille au niveau de l'humanité tout entière. Alors, dans Ruth, nous voyons que Dieu est en train de restaurer la vie de Naomi. Vous vous souvenez que Naomi a vécu, enfin d'abord elle quitte Israël, elle part dans ce pays qui est dominé par un dieu terrible, elle perd son mari, elle perd ses deux fils, elle rentre en Israël complètement amère. Puis au chapitre 4, enfin, déjà avant, hein, on a commencé à voir que Dieu est en train de la restaurer intérieurement. Et puis, pendant qu'il s'occupe de Naomi, premièrement, vous vous souvenez qu'il y a eu une famine, hein, c'est pour ça que Naomi elle est partie. Bon, déjà, au chapitre 1, on sait que Dieu a réglé le problème de la famine. Ça, c'est le peuple d'Israël en entier. Mais au chapitre 4, on apprend que, au travers de ce que Dieu est en train de faire pour Naomi, Naomi a perdu ses deux fils. Dieu est en train de lui donner un nouveau fils au travers de son petit-fils. Il est dit qu'elle l'adopte comme son fils. Au travers de ce que Dieu est en train de faire pour Naomi, il travaille aussi pour son peuple, à un niveau au-dessus. Parce que ce petit-fils de Naomi, qui s'appelle Obed, est l'ancêtre de David. Puis quel est le problème du peuple de Dieu dans cette période, pendant les juges? C'est l'apostasie. Ils sont constamment en train de se tourner vers les idoles, Et par conséquent, ils ont des invasions ennemies, c'est une période assez terrible. Et David, c'est quelqu'un qui va amener une restauration au niveau spirituel et aussi au niveau politique. C'est vrai que ça ne va pas durer très longtemps, mais en tout cas, ça va durer un certain temps. Et puis, en même temps qu'il est en train de régler le problème de l'apostasie du peuple pendant la période des juges, Dieu est en train de travailler à un troisième niveau, au niveau de l'humanité. Pourquoi est-ce que l'humanité est concernée par David ? Dieu a fait une alliance avec David qui n'existait pas avant. Il a fait une alliance avec lui. Il lui a dit que son trône serait éternel. Et ça, c'est la base, cette alliance davidique, c'est la base de l'espérance messianique du peuple d'Israël. C'est là-dessus que les prophètes se basent pour dire qu'un Messie va arriver. Et ce Messie, c'est lui qui va amener le salut à toutes les nations. Donc en réglant le problème de Naomi, il fait avancer ses plans pour son peuple. En faisant avancer ses plans pour son peuple, il adresse le problème de l'humanité tout entière. Première chose qu'on découvre dans le livre de Ruth, c'est que Dieu fait du travail multicouche. Il utilise une couche pour l'autre. Hein. Deuxième chose. Alors, une des caractéristiques générales de Dieu dans la Bible témoigne, c'est que Dieu est cohérent. Ainsi, lorsque Dieu intervient dans le monde de manière directe, de manière surnaturelle, il y a souvent une impression de déjà-vu. Vous savez ce que c'est un déjà-vu ? Les jeunes du caté, je ne sais pas si vous connaissez cette expression. C'est je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ça vous arrivera, si ce n'est pas le cas, ça vous arrivera probablement une fois dans votre vie. C'est vous vivez quelque chose, c'est assez clairement la première fois que vous le vivez, mais vous avez une forte impression, j'ai déjà vécu cette scène. Hein ? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme phénomène dans notre cerveau. Est-ce que c'est parce qu'on a eu un rêve prophétique ? Est-ce que c'est simplement notre cerveau qui génère cette impression ? On a une impression de déjà vu. Alors, quand Dieu intervient dans l'histoire de manière directe, hein, pas juste quand il guide globalement, quand il intervient de manière directe, il y a une impression de déjà vu. Parce que chaque fois que Dieu fait quelque chose, ça rappelle ce qu'il a fait avant et ça pointe vers ce qu'il va faire après, si bien qu'il y a un fil conducteur dans l'histoire de l'action de Dieu. Alors, j'ai une petite vidéo pour ça, mais je dois d'abord vous donner un petit peu de background. C'est un extrait du film Matrix. Est-ce que les jeunes du KT, vous avez vu Matrix ? Ou bien c'est déjà dépassé pour vous, hein ? Ah là là. Donc, les plus anciens ne l'auront pas vu, les plus jeunes ne l'auront pas vu non plus. Qui c'est qui a vu ce film ? Ah, quand même, ok. Bon, dans le film Matrix, il y a des êtres humains qui tout d'un coup réalisent que le monde dans lequel ils vivent, ce n'est pas la réalité. C'est une réalité virtuelle qui est injectée dans leur cerveau. En fait, ils sont dans une espèce de baignoire. Et puis, ils ne vivent rien du tout. C'est simplement une réalité virtuelle qui est injectée dans leur cerveau. Et celui qui a créé ce monde virtuel dans lequel ils vivent, c'est une machine. Pas très sympathique comme créateur. Hein. Et puis, ces êtres humains qui ont remarqué que la réalité est virtuelle, hein, les autres n'y croient pas, évidemment, ils commencent à vouloir agir pour libérer les autres. Et puis, la machine qui a créé ce monde, elle n'a pas envie. Parce qu'elle veut contrôler ces êtres humains qui sont dans des cuves. Là. Alors, de temps en temps, la machine, elle est obligée de venir changer le code pour venir mettre des bâtons dans les roues de ces êtres humains. Mais il y a une chose qu'elle n'arrive pas à éviter, c'est que chaque fois qu'elle vient changer le code, il y a un déjà-vu qui se passe. Alors, l'extrait qu'on va voir, j'ai malheureusement pas réussi à le trouver en français, il est en anglais, mais il n'y a pas besoin de forcément comprendre beaucoup. Simplement, il faut savoir qu'en anglais, déjà vu, ça se dit déjà vu. Donc, ce n'est pas très compliqué. Et puis, il faut faire attention au chat. Il y a un chat, puis c'est là que la chose cruciale se passe. Il voit un chat passer et puis ce chat miaule. Puis il le revoit une deuxième fois faire exactement la même chose. On n'entend pas le son non plus.
What did you see? What happened?
A black cat went past us and then another that looked just like it.
How much like it? Was it the same cat?
Might have been, I'm not sure.
Switch, hey pup.
Ils ont réalisé qu'il a vu un déjà vu. Il a vu deux fois le chat passer.
What is it?
A déjà vu is usually a glitch in the matrix. It happens when they change something.
Il faudra vraiment qu'on change de bimère un jour. Alors, la deuxième chose que l'on apprend au travers du livre de Ruth, c'est que quand Dieu vient changer le code, quand Dieu intervient directement dans notre réalité, il y a une impression de déjà-vu. Il y a un pattern qui se répète. Chaque fois qu'il vient agir, on voit un peu le même genre de choses qui se passent, parce qu'il est cohérent, il révèle qui il est au travers de son action. Et un des patterns qu'on observe dans la Bible et qui est présent dans Ruth, c'est que Dieu, pour lutter contre la chute ou pour guérir le monde de la chute, il va utiliser les situations et les personnes les plus marquées par la chute. Il fait ainsi naître son peuple de femmes stériles. Sarah, Rebecca, Rachel, qui est citée dans notre texte, Ruth, Anna, Élisabeth, dont on a entendu parler tout à l'heure, la femme de Zacharie. J'aimerais peut-être juste dire pour les personnes qui vivent l'infertilité, ce que quand j'entends que c'est lié à la chute, ce n'est pas dans le sens qu'il y a une responsabilité, mais que la chute a un impact sur toute la création. La création était une des bénédictions de Dieu, c'est cette fertilité. Multipliez-vous, reproduisez-vous. Cet impact sur toute la création en particulier, ça peut aller dans ce sens-là. Alors, il utilise ceux que la méchanceté des hommes a rejetés ou considère comme ayant pas de valeur. C'est Léa, c'est de Léa, celle que Jacob n'aimait pas, que viendra la tribu de Juda, dont est issue Boaz, David et Christ. Léa est citée dans notre texte. Une autre personne citée dans notre texte, c'est de Tamar, l'étrangère, celle à qui le droit de rédemption avait été refusé et qui en est allée à se prostituer pour reprendre ce droit. C'est au travers d'elle que cette lignée continue. C'est par Rahab, la prostituée cananéenne, que continue cette famille dont Boaz est le descendant. Cela, vous pouvez le voir dans la généalogie de Matthieu. C'est finalement par Ruth, la veuve moabite, l'étrangère sans défense, que cette famille continue. Au final, c'est par Christ, le Messie rejeté, humilié et crucifié, que la nouvelle création va commencer. Une première chose, Dieu fait du travail multicouche. Deuxièmement, il recourt aux personnes marquées par la chute. Troisièmement, voilà. Alors, j'ai dit que Dieu était cohérent. Ça implique qu'au cours de l'histoire, il a tendance à se comporter de la même manière ou à faire les choses de la même manière. Donc là, horizontalement, Dieu est cohérent. Maintenant, verticalement, Dieu est cohérent aussi. Ça veut dire que ce qu'il révèle de lui-même dans une de ses couches, à un des niveaux, s'applique aussi aux autres. C'est pour ça qu'on peut regarder les détails de ce qui se passe dans la vie de Judas ou d'un tel ou d'une telle pour comprendre aussi qu'est-ce que Dieu est en train de faire pour l'humanité dans son ensemble. Alors, j'en viens donc à la troisième chose que le livre de Ruth nous apprend. Le livre de Ruth nous apprend. Avant, je vous ai dit que dans le récit biblique va de la création jusqu'à la nouvelle création. J'ai dit la force motrice, c'est Dieu. Le livre de Ruth nous donne un peu plus de détails. Le livre de Ruth nous dit que par amour, Dieu est en train de racheter et de restaurer le monde. On découvre cela par trois mots. Le premier mot, c'est le mot qu'on a entendu depuis le début, qu'on a commencé cette série. Est-ce que quelqu'un voudrait tenter de deviner? C'est le mot principal du livre de Ruth. C'est un mot hébreu, hein? Voilà, chesed, ok. C'est bon. Par amour, quelle est la motivation profonde de Dieu dans tout ce qu'il fait? Jean-Jacques nous a donné un prêche dimanche passé qui nous disait exactement la même chose. Hein. C'est son chesed, son amour fidèle, c'est un amour qui est relationnel, hein. C'est un amour qui crée un lien et qui est ensuite fidèle à cette relation. C'est un amour surabondant. Quand Dieu vient régler un problème, il ne peut pas s'empêcher, il ne va pas seulement régler le problème, il va donner encore chaque fois plus. C'est un amour immérité. On ne peut pas gagner cet amour par nos actes. Alors, le chesed immérité, il est présent ici dans Ruth. De même que Dieu vient sauver une Naomi qui est amère, et qui s'est réfugié chez le dieu Kemosh. Dieu vient aussi sauver son peuple qui, dans la période des juges, était dans une apostasie permanente et finalement sauver une humanité qu'il a rejetée. Donc ça, c'était le chesed. Cette dynamique de l'action de Dieu, elle est basée sur, premièrement, le chesed, l'amour de Dieu. C'est par amour qu'il fait ce qu'il fait. Ensuite, vous voyez qu'il y a le mot « racheter » et le mot « restaurer ». C'est là que j'en viens au Goël. Le Goël, ou en français « rédempteur » dans la loi juive, c'est un proche parent qui vient sauver une personne qui a sombré dans la détresse économique. Lorsqu'une personne devenait trop pauvre pour survivre, elle n'avait plus d'autre choix que de vendre sa terre ou même de se vendre soi-même en esclavage. Dieu avait prévu ce genre de situation et il y a une loi qui dit que le plus proche parent a le devoir de lui-même venir acheter la terre que cette personne est en train de vendre, afin que la terre reste dans la famille. Puis si la personne s'est vendue en esclavage, il a le devoir aussi de venir la racheter. Donc il va devoir payer la valeur de travail que la personne aurait eue pour son maître et sortir son proche parent de l'esclavage. Dans la Bible, Dieu est régulièrement caractérisé comme le Goël, hein, de manière imagée. Ça, le premier sens, c'est ce sens très pratique qu'on voit dans la loi, mais après, de manière métaphorique, la Bible l'applique à Dieu lui-même. Dieu est le rédempteur du peuple d'Israël et du monde. En effet, dans le salut, il y a deux mouvements. Imaginez que vous êtes esclave, ou vous êtes captif d'une situation oppressante. La première chose qu'on doit faire, c'est vous sortir de cette situation. Ça, c'est le goël, c'est le rachat. Vous vous faites sortir de cette situation. Puis ensuite, on doit vous en donner une nouvelle. Ça, c'est la restauration. Puis vous imaginez bien que si vous avez vécu longtemps dans une situation oppressive, il y a des restes en vous de tout ça, il y a des blessures. La restauration, c'est cette vie nouvelle qui est offerte. Il y avait la vie d'avant, dans l'esclavage, et puis maintenant il y a une vie nouvelle qui est offerte. Donc dans le salut, il y a deux choses qui doivent être faites. Le goël, ou quand on dit que Dieu, il rachète, c'est ça, il est en train d'arracher à la situation de départ. Donc par exemple en Égypte, Dieu commence par arracher son peuple à l'Égypte. Puis ensuite, il va lui donner une nouvelle alliance et une nouvelle terre. Donc pour restaurer, si on revient à Naomi, pour restaurer Naomi, Dieu doit d'abord l'extirper du pays de Kemosh, hein, Moab. Et puis, vous vous souvenez, quand il l'a amenée en Israël, elle est toujours au fait captive de quelque chose. Elle est captive de l'amertume. Donc Dieu doit encore en plus l'extirper de cette amertume. Et c'est ce qu'il va faire, hein, au chapitre 2 déjà. De même, il doit libérer Israël du cycle infernal de l'apostasie et des invasions ennemies. C'est ce qu'il va faire au travers de David. Et puis l'humanité entière, il doit nous libérer du pouvoir du péché et la création de l'emprise de la mort. Donc cet aspect du goël, du rachat, c'est enlever à une situation terrible, sauver de, libérer d'une situation. Pour l'humanité, c'est le pouvoir du péché. Si on pense à la création tout entière, c'est l'emprise de la mort. Maintenant, après nous avoir rachetés, Dieu nous restaure. Et c'est là que j'en arrive au troisième mot. Donc il y a trois mots qui principalement expliquent tout le livre de Ruth. Hein. Il y a le chesed, l'amour. Il y a le goël, le rachat. Et puis le troisième mot, c'est « chouv ». Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot? Vous vous souvenez peut-être de mon premier prêche sur Ruth 1. C'est le mot qui explique le retournement physique ou spirituel et la restauration. Alors là, on peut faire un parallèle assez intéressant. Nous avons vu au chapitre 1 que Naomi était retournée en Israël, mais seulement géographiquement. Elle était retournée en Israël, et puis ce verbe pour retourner, c'était le verbe chouv. Puis quand elle est arrivée là, elle dit aux femmes, Naomi dit aux femmes du village, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, appelez-moi Amère, parce que Dieu m'a ramenée vide. Alors, il y a deux sens causatifs au verbe chouv. C'est faire revenir quelqu'un physiquement. Donc là, c'est le sens que Naomi utilise. Elle dit, Dieu m'a fait revenir physiquement en Israël, vide. Puis au chapitre 4, on a la situation inverse. C'est les femmes qui parlent à Naomi et elles lui disent, par ton petit-fils, Dieu t'a fait revenir spirituellement. Dieu t'a restauré ta vie. Et c'est de nouveau le verbe « chouv » qui est utilisé, mais cette fois dans son sens spirituel. Donc la boucle est bouclée. J'aimerais revenir à la question de départ. Et vous, quel est votre récit? Avec quelle histoire vous expliquez le monde et votre propre existence? Nous avons intitulé cette série sur le livre de Ruth « L'amour fidèle et surabondant de Dieu », c'est-à-dire le chesed de Dieu. le récit de la Bible dans son ensemble affirme que malgré les apparences, malgré la souffrance, les guerres, toute l'horreur de l'histoire, que malgré les apparences, la force motrice qui guide l'histoire à la conclusion, c'est l'amour de Dieu. Il y a une intervention de Dieu dans l'histoire qui suprêmement nous montre que c'est Dieu qui conduit l'histoire et que c'est par amour qu'il le fait. Cette intervention, c'est la venue de Dieu le Fils dans notre monde en un être humain, Jésus, le Messie de la lignée de David. Dans sa mort est notre rédemption. Sa mort, c'est ce qui nous arrache à l'esclavage du péché. Et dans sa résurrection est notre vie, notre restauration. Sa résurrection, c'est cela qui restaure notre être à une nouvelle vie. Cet amour qui est en Jésus, aucune haine ne pourra le vaincre. Cette lumière, aucune ténèbre ne peut la recouvrir. Cette vie, aucune mort ne peut la retenir. La nouvelle création a débuté et nous en faisons partie. Donc vous n'êtes pas seulement appelés par la Bible à faire de ce récit le vôtre, comme un système de pensée. Vous êtes appelés à prendre place dans ce récit. Vous en faites partie. Donc prenez votre place dans ce récit, vous qui êtes le peuple de Dieu. Vivez et répandez la bonne nouvelle que la nouvelle création a pénétré notre monde. La bonne nouvelle que la fin a commencé.
Pasteur, afin de tenter de nous approprier tout ou partie de ce qu'il nous a dit et de faire une phase de transition vers le repas du Seigneur, qui est l'élément clé de notre culte, je vous invite à quelques instants de méditation silencieuse. Après, nous passerons à la scène.